Bon, retard, le cri de ralliement, maintenant c'est le Canu Info, on va vous couper le titre en plein milieu, ce qui ne se fait pas. Allez, bonne soirée à vous. Hop. Voilà.
Qui vit dans une maison de retraite, perdu dans sa campagne. Sa famille vit à 500 km, resté fidèle à ses terres, doté d'un fort tempérament qui lui a valu un avertissement à son arrivée dans l'établissement. Et dernièrement, son état de santé s'est aggravé. Les auxiliaires le disent violent, seules ses pilules peuvent le calmer. Maltraité, insulté, drogué, isolé, son destin est scellé, c'est muré dans le silence qu'il s'en est allé.
Le silence tue. Le silence tue, qu'en penses-tu? Jamais su ce qu'elle avait vécu. Pourquoi elle ne veut plus devant lui se mettre à nu? Pourquoi ce regard vide le soir dans le lit? Pourquoi toutes ces pensées morbides qui ne lui laissent aucun répit? Elle a perdu sa joie de vivre, elle ne vit plus que dans les livres. Elle se terre dans un abri fait de brises indestructibles. Il a beau frapper à sa porte, elle lui a interdit d'entrer. Non, elle n'est pas assez forte, elle ne peut rien lui raconter. Plus les années passent, plus elle s'enfonce. Sans même s'en rendre compte, elle a quitté la surface pour devenir une ombre. Hantée par ses démons, elle s'accommode de ce monde, ne fait de la figuration. Lui a cru qu'elle allait mieux malgré cette lueur dans ses yeux. Comme si au milieu de son cœur, quelqu'un avait planté un pieu. Il la trouvera au pied du lit.
On nous dit, le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, faut arrêter de se faire exploiter, là. Faut...
ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais?
La révolution!
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors les types de la radio sont avec nous?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Canu Info.
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est lundi, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, mes parents sont rentrés.
Bonsoir. Alors il faut mettre pause. Mais pause.
Hop. Pause. Mais il y a un petit bug technique. Mais c'est bien le Canu Info du lundi 23 janvier 2023. Il est 19h06 et on va donc parler d'abord.
Alors à l'international, on vous parlera de la nouvelle grève des ambulanciers au Royaume-Uni et de la situation sociale au Pérou.
Au national, on parlera de l'augmentation du budget de l'armée. On aura un petit reportage sur les luttes anti-CRA. Et on parlera du photographe espagnol qui a été amputé d'un testicule la semaine dernière lors de la manifestation.
Et au local, on vous parlera de la grève chez General Electric, d'une petite immersion dans la manif lyonnaise contre le travail jusqu'au tombeau et des actions de la CGT Énergie en France. Et on passe tout de suite au bref.
Oui, en bref, y aura une grève à Ubisoft ce vendredi, en plus donc du mouvement contre la réforme de retraite. Le syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo, le STJV et Solidaire Informatique, ont lancé ce lundi un appel à la grève pour le 27 janvier de toutes les entités françaises d'Ubisoft pour demander des augmentations de salaire, mais aussi et surtout dénoncer les pratiques managériales, notamment le sexisme d'entreprise et le crunch, pratique qui consiste à faire faire à ses salariés des heures et des heures de travail à la suite. Il y avait un patron d'entreprise du jeu vidéo qui se vantait de faire faire 100 heures de suite à ses employés.
Et nouveau meurtre policier à Paris où deux flics ont tiré à 4 fois à balles réelles sur une personne dans la rue. Les deux policiers, donc meurtriers présumés, ont été placés en garde à vue et ils sont sortis en toute logique sans aucune poursuite judiciaire, selon les informations du parquet savamment distillées dans la presse. Alors, suite à ce nouvel assassinat, comment est-ce que la justice va-t-elle pouvoir légitimer l'action de la police ? Eh bien, réponse, en ouvrant deux enquêtes, l'une pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, confiée à la police judiciaire de Paris, et qui vise la personne tuée par la police, l'autre pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, qui a été confiée à l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, dont la capacité à laver plus blanc que blanc les policiers criminels n'est plus à démontrer. On notera déjà toute l'ironie et la violence symbolique des premières accusations à l'encontre des flics, comme si tirer à balles à bout portant n'avait pas pour intention de donner la mort. En réalité, c'est une stratégie judiciaire assez classique que de rechercher à cloisonner les enquêtes de police, c'est-à-dire de tenter de séparer les crimes policiers du contexte dans lequel ils s'opèrent, pour mieux exempter les policiers des conséquences pénales de leurs actions meurtrières. Comme remède au crime policier, la seule bonne réforme de la police, c'est son abolition.
Et toujours en bref, le personnel de l'entreprise Brals, bar-resto de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry, du groupe SSP, opérateur de la restauration sur les sites de transport, est en grève reconduite depuis lundi 9 janvier, qui continue donc encore. Une vingtaine de salariés sur la centaine que comptent les 6 commerces de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry sont en grève pour dénoncer les horaires à la rallonge, les charges de travail trop lourdes et les rémunérations trop faibles.
Et tout de suite, on passe à...
International.
Et on commence en partant au Royaume-Uni.
Et oui, c'est décidément une émission de grève, puisqu'on va parler de la nouvelle grève des ambulanciers au Royaume-Uni ce lundi, la troisième en 5 semaines, pour demander des augmentations de salaire, alors que le pays est touché par une inflation record qui oscille autour des 11%. Les infirmières étaient déjà en grève 2 jours la semaine dernière, après une première mobilisation inédite en décembre. Donc c'est pour des augmentations de salaire, mais aussi contre le manque de moyens. Les syndicats dénoncent que du fait des faibles salaires, il y a des dizaines de milliers d'emplois non pourvus dans le système de santé britannique. Et il y a aussi une organisation d'urgentistes, le Royal College of Emergency Medicine, qui estime à 500 personnes qui meurent chaque semaine en attendant une ambulance dans la 5e économie la plus riche du monde. Ce que dénonce évidemment le personnel du NHS, le système de santé britannique, et les syndicats. Alors face à ces grèves, il y a la répression du gouvernement. Donc déjà le ministre de la Santé, Steve Barclay, fait des déclarations dans la presse en disant que les grévistes sont vraiment décevants. Et surtout, Rishi Sunak, le premier ministre britannique, a lancé une grosse offensive contre les grévistes avec une loi visant à instaurer un service minimum qui serait imposé aux pompiers, aux ambulanciers et aussi dans le secteur ferroviaire. Donc le projet de loi a été adopté en deuxième lecture au Parlement après le vote des députés. Et le texte était débattu à la Chambre des communes, mais face à la répression, le mouvement ne faiblit pas, puisqu'il y a un nouvel appel à la grève pour le 6 février, qui pourrait être la plus grande grève de l'histoire du NHS, le système public de santé britannique, avec une grève conjointe des ambulanciers et des infirmières.
On a donc une grosse répression gouvernementale au Royaume-Uni et on va tout de suite au Pérou où il est aussi affaire de répression.
Ouais, on en a déjà pas mal parlé, donc on passera relativement vite sur ce sujet. Pour les détails précis sur le contexte politique au Pérou, on vous invite à réécouter sur le blog des Canus Info l'excellente interview faite il y a 15 jours par nos camarades des Canus Info. Alors pour rappel quand même, depuis début décembre, un mouvement très populaire, même un véritable soulèvement, a lieu au Pérou, notamment contre la destitution du président de gauche, Pedro Castillo, élu en 2021. Alors Pedro Castillo, c'est un ancien militant syndicaliste issu des mouvements paysans et indigènes. Il a dû faire face durant son mandat, durant une bonne partie de son court mandat, à l'opposition du Parlement dirigé par la droite, représentante, elle, des grands propriétaires terriens et de la bourgeoisie blanche de Lima. Il a voulu dissoudre le Parlement pour former une assemblée constituante dans le but de changer la Constitution. Il s'est fait renverser par le Parlement, destitué, puis enfermé. Remplacé suite à ce coup d'État par Dina Boluarte, qui a mis en place l'état d'urgence et déclenché une répression mortelle des manifestations massives qui ont commencé à traverser le pays depuis début décembre. Il y a des dizaines de morts face à cette répression. Depuis plusieurs semaines, les affrontements sont nombreux. Les blocages des routes, les barrages et les grèves également. Nos médias mainstream occidentaux, eux, ne retiennent qu'une chose ces derniers jours. Il y a quelques jours, donc au milieu de la semaine dernière, 400 touristes étaient bloqués au Machu Picchu à cause des barrages routiers et ont dû être évacués. Ça avait l'air d'être vraiment très dur pour les touristes. Alors pendant ce temps-là, à Lima, la police, elle, accompagnée des milices d'extrême droite, expulsait dans la violence l'université de San Marcos, dans le centre-ville, occupée depuis plusieurs jours par des étudiants et étudiantes venus de la province péruvienne. Beaucoup d'entre eux ont été arrêtés. Pour autant, la répression ne fait pas plier ce soulèvement légitime et populaire. Ce jeudi 19 janvier, un appel à prendre Lima a littéralement provoqué une déferlante populaire. Des dizaines de milliers de personnes issues des milieux ouvriers, paysans ou étudiants sont venues de partout dans le pays pour manifester au cri de « Que se vayan todos », donc qu'ils s'en aillent tous. Ce mouvement est donc très loin d'être terminé malgré la répression. On va continuer à vous en parler régulièrement jusqu'au bout.
Et pour ponctuer ce sujet sur le Pérou, on fait une petite pause musicale avec du rap péruvien, c'est Las Damas.
La Damas. Hein. Lima, Pérou. Se parezcan a esto, les falta compás, así que es fácil mamá.
hijo que es del freestyle. Y usted le falta de esto para representar.
Porque esto no es de juego con el que lo hace. Yo si me sublevo, debo rapar bien, así me atrevo. Hacemos rima constante pa' que el que se va de avance caiga en trance y se canse de hacer rap su contenido.
Pongo lo mío en alquiler y sigo rapeando desde ayer. Como distrito yo me consagré y ustedes solo son fucking liars.
Este es mi talón a mi cabello. Nada de esto tiene precio. You cop. Yo soy como tú, como el aquello. Me vengo el rap serio como vicio. Este es mi talón a mi cabello. Nada de esto tiene precio. You cop.
Somos movimiento, aquí nadie descansa, nadie toma asiento. Todas le meten violento, tú que te crees que te miento. Levanta, métele de eso pa' que se dé cuenta que tú lo revientas y yo lo reviento.
No será pa' tanto, caos es tanto, dedos que minas deslumbre con talento. Y pienso que hubiera sido sin hip hop conocimiento. Nuestro nombre iría al pavimento, nos agarrarían de punto. Las paredes tiemblan, la tierra se abre, tu cuadro se cae, no es estable, el inestable. Y de la voz del interior te abre, como el viento huracanado en esta zona. Soy hip hop.
Más que romper bases, ser explícito en la frase. Cada día un nuevo avance.
12, 11 en el beat.
Supere y no descanse.
Pero la tama.
Pero jamás se disfrace.
Primero la tama.
La tama.
Sí.
Lima, Perú.
Vous êtes toujours sur Radio Canu, c'est le Canu Info du lundi, il est 19h19 et on vient d'écouter Las Damas, Soy Hip Hop du hip-hop péruvien. Et on passe tout de suite au...
National.
Et au national, on va commencer par le budget de l'armée qui augmente...
Oui, alors notre cher président Emmanuel Macron a trouvé vendredi dernier de l'argent magique. Alors rassurez-vous, ce n'est pas pour les précaires, pas pour les aides-soignantes, pas non plus pour les chômeurs. C'est pour les militaires. Et combien notre cher président a-t-il trouvé d'argent pour l'armée française ? 400 milliards d'euros. C'est-à-dire 6 fois plus que le budget annuel de l'éducation nationale. L'armée française va bénéficier en 6 ans. Sur la période 2024-2030, de plus de 400 milliards, 413 pour être exact, c'est un tiers de plus que la somme qui avait été donnée à l'armée lors de la précédente loi de programmation militaire. Alors, où vont aller les 119 milliards d'euros supplémentaires que l'armée a dérobés entre les deux lois de programmation militaire ? Une bonne part ira au renseignement. Le budget de la Direction du renseignement militaire, la DRM, et de la Direction du renseignement de la sécurité et de la défense seront doublés. Alors, de l'aveu même d'Emmanuel Macron, il s'agit d'une dynamique sans précédent, depuis 5 décennies. Sous les deux quinquennats Macron, et en supposant que le petit roi Tlé en place arrive jusqu'à la fin de son règne, le budget de l'armée aura tout simplement doublé. Celui qui se présente aujourd'hui en chantre de la paix dans le monde n'est en réalité qu'un des pires représentants de l'impérialisme occidental. D'opérations spéciales en interventions militaires soi-disant temporaires, il y a bien longtemps qu'on ne compte plus les échecs de l'armée française. Alors que le régime français mobilise en ce moment sa police pseudo-républicaine contre un mouvement social qui refuse la destruction du système de retraite, on a une proposition pour Emmanuel Macron. 400 milliards d'euros, c'est 33 fois le budget du besoin de financement du système de retraite en 2027. Il suffit de définancer l'armée pour financer nos retraites.
Et on continue au national toujours avec un petit reportage interview qui est un état des lieux des luttes anticras et un point sur ce qui se passe à Calais qui a été fait à l'occasion d'une manifestation devant le CRA de Lyon-Saint-Exupéry qui avait lieu ce samedi. À 17h, il y avait des gens de plusieurs collectifs en France qui étaient là pour cette manifestation. Et ça a été l'occasion de faire un petit point sur tout ça. On écoute tout de suite.
La liberté
pour qui ?
Pour tous.
Et quand ?
Maintenant.
Et quand ?
Du coup, là, on est devant le centre de rétention administrative de Lyon, le nouveau centre de rétention.
Et là, on est dans un rassemblement pour demander la libération de tous les prisonniers du CRA, la fermeture des CRA, la régularisation de tous les sans-papiers. Bah, du coup, ça s'inscrit un peu dans la mobilisation contre la loi Darmanin, la campagne Solidarité, mais aussi parce que lundi, l'ancien CRA de Lyon qui avait été fermé, visiblement, il va réouvrir. Bah, là, récemment, on est en contact avec des prisonniers du CRA. Il y a eu une grosse TS, une tentative de suicide en décembre au CRA. Et du coup, pendant un moment, nous, on pensait, les prisonniers du CRA aussi, pensaient que la personne était décédée et tout. Et bon, voilà, du coup, c'était assez dur. Il y a un témoignage qui a été publié sur le blog. Puis ces derniers temps aussi, il y a eu la démission du médecin là, du CRA en décembre aussi. Du coup, l'accès aux soins, ça a l'air de devenir un peu plus compliqué en plus.
Je suis membre de CSP69 qui a créé depuis 2020 période de marche nationale. Comme tous les collectifs qui en est pour avoir la régularisation de tous les sans-papiers. On ne va pas lâcher malgré qu'il y a des nouvelles lois qui nous empêchent un peu. On a participé avec Lyon Anti-CRA, rassemblement devant le CRA. Pour demander de fermer tous les CRA et ouvrir les frontières. Je veux passer une petite mot pour Monsieur Macron et Monsieur Darmanin. On veut dire aussi que les immigrés, ils sont pas de mafia pour les enfermer dans les centres de rétention et les expulser. Les immigrés, ils viennent en France pour travailler. Pour construire aussi la France comme tous les êtres humains, comme les Français.
Hein. L'AG Anti-CRA de Paris, c'est une AG ou un collectif qui s'organise autour de la question des centres de rétention administrative qui existent à Paris. Du coup, il y a 4 centres de rétention administrative à Paris, CRA. Il y en a un au Ménilamlo. Et sinon, il y a le CRA de Vincennes. Et ensuite, il y a le CRA de Palaiseau. Plaisir, CRA Covid, où toutes les personnes qui est vraiment, vraiment excentrée et loin de Paris et difficile d'accès. Et le CRA de Palaiseau, où là, on a du mal à avoir des liens avec les gens à l'intérieur, aussi parce qu'il y a eu des refus de visite.
Bah, du coup, ça a beaucoup bougé cet été, comme souvent l'été. Du coup, au Ménilamlo, notamment. Suite à ça, il y a eu des travaux aussi, parce que les gens avaient tendance à monter sur les toits pour tenter de s'évader. Il y a des gens qui ont réussi, et il y en a d'autres qui se sont fait attraper. C'est reparti ces dernières semaines dans un esprit un peu plus combatif, autant au Ménilamlo, donc en particulier dans les bâtiments des femmes dont on a parlé, et aussi à Vincennes, où il a commencé à y avoir des mobilisations un peu plus collectives qui ont reprise. Il y a un projet encore un peu flou de CRA, d'un autre CRA, donc ce serait le troisième au Ménilamlo.
Et sinon, on est en train d'essayer de voir comment on peut se mobiliser autour de la loi Darmanin qui va bientôt commencer à être étudié à l'Assemblée et on appelle à un gros mouvement de mobilisation le 18 février.
Pour l'instant, sur Nantes, on n'avait pas de CRA. Et justement, en octobre, Darmanin a fait une annonce publique lors de sa venue sur Nantes. Sur un truc de insécurité galopante, tout ça, avec l'amalgame assez crade de insécurité égale immigration, immigration égale CRA et expulsion. Du coup, il a annoncé que dans un avenir très proche, il y aura un CRA en Loire-Atlantique.
Du coup, à Calais, depuis la Big Jungle, il y a une politique de lutte contre les points de fixation à Calais. Et du coup, il y a des expulsions qui ont lieu toutes les 48 heures de tous les lieux de vie. Il y a environ entre 800 et 1500 personnes qui sont bloquées à la frontière et qui vivent dans des petites jungles éparpillées sur tout le Calaisis. Et voilà, avec un convoi d'entre 7 et 15 vannes de CRS qui se déplacent sur les jungles tous les 24 à 48 heures pour aller déplacer les gens et voler leurs tentes. C'est une politique de harcèlement qui a lieu depuis 2018. Et en février 2022, l'année dernière, du coup, il y a plusieurs squats qui ont tenté d'être ouverts. Il y a eu notamment le bâtiment C, c'est, je pense beaucoup de personnes ont entendu parler, mais c'est une tour qui a été prise, enfin occupée et en fait évacuée par le GIGN très rapidement en hélicoptère. Et quelques jours plus tard, c'est le squat rue Frédéric Sauvage qui a été occupé. Du coup, depuis, il y a un van de CRS, depuis novembre, il y a un van de CRS pour justifier des contrôles d'identité dans les quatre rues qui entourent le squat. Il y a deux caméras de vidéosurveillance directement liées à la police municipale qui ont été installées. Globalement, enfin, régulièrement, ce sont quand même les personnes en soutien qui sont contrôlées. Et parfois, il y a des descentes des flics aussi qui n'ont pas bien compris qu'ils n'avaient pas le droit d'entrer parce que justement, il y a des occupants.
Le collectif dont je fais partie s'appelle Getting the Voice Out et donc c'est un collectif qui se place en soutien des luttes des personnes à l'intérieur des centres fermés. Du coup les centres fermés c'est l'équivalent des CRA en France, sauf que ça s'appelle pas pareil mais le fonctionnement est quand même très très similaire. En Belgique il y a actuellement 6 centres fermés, il y a un projet de construction de 2 nouveaux centres. C'est un peu au stade de l'annonce qui dure depuis quelques années quand même. On n'a pas beaucoup plus d'infos, mais voilà, en Flandre, en Wallonie. Donc on est plutôt dans un moment, comme dans beaucoup d'endroits, où la logique c'est enfermer plus, expulser plus et mettre plus de moyens sur la répression des migrations.
C'est quoi la liberté pour qui?
Pour tous.
Et quand?
Maintenant.
Pierre par pierre, mur par mur, nous détruirons les
centres
de rétention.
Et pierre par pierre, et mur par mur, nous détruirons les
centres
de rétention.
J'ai sacrifié toute ma vie ou mes ailes. Y'en a qu'on fait l'asile. Si t'es pas déter, c'est pas la peine. Inch'Allah demain ça paye. Faut t'en crois pas que je te parle bête. Si demain ça pète, pour l'honneur moi je prendrai perpète. Que Dieu nous préserve. Pas le temps pour faire la mala. J'vais cacher mon bif chez Baba. On met les gants et on bambarde. Si tu me cherches je suis pas là. Wanna be the Gucci je zone. Maghribi tout c'est des Z. Tu veux Hadja on est bezef. De Milano jusqu'à Marseille. Sans visa, sans papier, on viendra même à pied. On va quitter la cahier et faire beaucoup de papiers. Sans visa, sans papier, on viendra même à pied. On va quitter la cahier et faire beaucoup de papiers. Sans adresse, sans visa. Ici c'est devenu bizarre.
Voilà, c'était un petit reportage et des interviews. Et on ajoute que dans la nuit de samedi à dimanche, il y a eu aussi une action pour condamner la construction du deuxième CRA à Lyon l'an dernier. L'entrée du CRA a été verrouillée par des chaînes et la façade repeinte par une cinquantaine d'œufs remplis de peinture avec des tags « Feu au CRA »,« Liberté pour toutes et tous »,« No border, no nation ». Et on continue tout de suite au national avec un sujet sur le photographe espagnol amputé à la manif de la semaine dernière.
Ouais, donc c'était à Paris un photographe espagnol qui d'ailleurs a priori est ingénieur et pas journaliste, mais qui était en tout cas en train de prendre des photos avec des journalistes, donc il a 26 ans. Il a subi l'une des, voire la première grave mutilation de ce mouvement. On espère que ce sera la dernière, mais on imagine que ce sera malheureusement pas le cas. C'était donc à Paris, ce jeudi, des flics d'une compagnie d'intervention ont foncé sur un groupe de journalistes. C'est désormais banal dans les manifs parisiennes. L'un d'eux s'est retrouvé au sol et s'est pris un méchant coup de matraque dans les parties génitales. La vidéo de l'action tourne d'ailleurs sur Internet. On y voit très clairement le flic porter volontairement un coup à cet endroit-là. Le soir même, face à la douleur insoutenable, l'homme blessé est allé aux urgences où on lui a amputé un testicule. Depuis, il a porté plainte pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Il y a d'ailleurs un appel à témoins pour appuyer cette plainte, car on le sait, faire condamner un policier pour violence volontaire, c'est de l'ordre du parcours du combattant. Preuve en est, la réaction du gouvernement ou de ses chiens de garde à la sauce BFM TV. Pour exemple, aujourd'hui, Lundi, l'avocate de la victime était sur BFM TV. Elle a dû justifier bec et ongle que non, ce n'était pas de la légitime défense de la part du policier, que taper avec une matraque un homme au sol qui prenait simplement des photos quelques secondes auparavant, eh bien ça n'était pas de la légitime défense. Tout ça face aux questions incessantes du journaliste. Alors je vous en cite quelques-unes. Avez-vous la certitude que votre client ne participe pas aux violences ? Êtes-vous sûre et certaine que cette action policière ne rentre pas dans le cadre légal ? Ce comportement-là, donc celui du policier, ne rentre-t-il pas dans le cadre de ce que doit être le maintien de l'ordre ? Idem du côté du gouvernement, Olivier Véran, lui, s'interroge sur le contexte et considère qu'il faut identifier ce qui relève de la légitime défense ou non. Idem du côté de la préfecture de Paris, je vous passe toutes les considérations de la préfecture de Paris. Bref. Comme d'habitude, tout est fait pour innocenter le policier et décrédibiliser la victime. Bon là, pas de bol, il y a une vidéo, on espère qu'elle servira s'il y a un procès, s'il y en a un. Beaucoup de courage à cet ingénieur photographe espagnol. Surtout, gaffe en manif et allez pour faire plaisir un petit ACAB.
Et on vous met tout de suite comme transition musicale une chanson des... travailleuse des chanteries italiennes, La Lega, interprétée par Riccardo Tesi, Claudio Carboni, Lucilia Galeazzi et Andrea Salvadori. Ensuite, on passe au...
On passe bien sûr au...
Local.
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 Mais que se passe-t-il au local ? Mais c'est incroyable ! Eh bien, au local, figurez-vous qu'on est allé faire une petite interview ce midi sur le piquet de grève de General Electric à Villeurbanne. Là, ils sont en grève depuis déjà... quelques jours et c'est pas la première depuis ces derniers temps et c'est sur des questions principalement salariales. On écoute tout de suite ce qu'ils ont à raconter.
Bonjour, Nadir Benad, délégué syndical CGT du site de Villeurbanne General Electric Grid Solutions. Donc là on est en grève depuis le lundi 16 janvier, grève totale. Donc là on attaque la deuxième semaine, le sixième jour, on est en grève sur les salaires. Donc la direction elle a ouvert la discussion sur les NAO là, il y a 15 jours. Donc on est arrivé à une augmentation minimale pour les ouvriers et techniciens de 130 euros. Alors que certaines catégories de salariés, notamment des très gros salaires à Paris, auront 4,5% d'augmentation. Et ça représente des talons énormes allant de 800 à 1000 euros, quoi. Donc nous, ce qu'on demande, c'est une répartition du talon minimal. Parce que comme je le disais à la direction la semaine dernière, et je l'ai encore dit ce matin, c'est les ouvriers qui sont directement impactés par l'inflation. Ils viennent sur site tous les jours, ils ne peuvent pas faire télétravail, ils ont des horaires décalés, ils ne peuvent pas prendre les transports en commun. Donc ceux qui sont directement impactés par l'inflation, et on demande un rééquilibrage du budget.
C'est quoi les profits de General Electric en moyenne ?
Au niveau General Electric, c'est énorme. Après, il y a plusieurs entités. Il y a l'entité renouvelable, il y a l'entité hydro, il y a l'entité grid solution qu'on est nous. Apparemment, on perd de l'argent. On n'a pas encore eu les chiffres de 2022, mais sur 2021, on perdait de l'argent. Il faut savoir qu'on est un grand groupe tenu par des fonds de pension américains. Et le système des grands groupes, c'est quand on perd de l'argent, ils en réinjectent. Et quand on en gagne, ils en récupèrent. Pendant des années, ils en ont récupéré, on n'avait pas d'augmentation. Et la seule année où on en perd, bah, soi-disant, il n'y a pas d'argent, ils ne peuvent pas nous augmenter. Alors que pendant des années, ils ont récupéré pas mal d'argent, quoi.
D'accord. Et là, qu'est-ce qu'ils disent la direction ? C'est quoi leur réponse jusqu'à maintenant ?
Bah, jusqu'à vendredi soir, c'était la discussion sans close. Et là, ce matin, on est intervenu en réunion. Et il y a le grand patron qui nous reçoit à 14h. Donc on va voir ce qu'on peut négocier avec lui. Sachant que nous, on discute avec la direction des ressources humaines à Paris. Que c'est au niveau national qu'on se bat là. C'est pour les 4 sites de Grid Solutions. Pour Paris, Montpellier, Aix-les-Bains et Villeurbanne. Donc là, c'est le big boss qui nous reçoit à 14h. On va voir ce qu'il va nous dire. Mais on demande que les négociations soient réouvertes et qu'on arrive à distribuer un talon raisonnable aux ouvriers.
Ok, et vous êtes combien de grévistes là en ce moment ?
La grève, elle a commencé lundi. Lundi, on était 130, mais en grève totale, non-stop, on est un noyau de à peu près 50 grévistes.
Ok, très bien. Et pour terminer, dernière question, est-ce que cette grève, elle s'inscrit aussi dans le mouvement plus global qu'il y a en ce moment contre la réforme des retraites ?
Oui, bien sûr, tout à fait. Bon, on a appelé aussi à la grève jeudi. Donc là, on est parti à une trentaine de grévistes à la manif jeudi. Et on rappellera encore aux prochaines manifs, bien sûr.
Très bien. Eh ben, merci beaucoup et bon courage à vous surtout.
Merci à vous.
Voilà, et donc vous venez d'écouter un peu la parole d'un des grévistes du piquet de grève là. Sachez qu'ils ont besoin de sous, alors on vous mettra sur le blog des Canu Info le lien. Ils ont une cagnotte, j'ai oublié de la noter là, mais en tout cas on vous mettra le lien. Ils ont besoin de sous, n'hésitez pas à passer les voir en tout cas, parce que c'est quand même... C'est la troisième grève qu'ils font en assez peu de temps sur des questions salariales. Et bien sûr, ils sont là aussi sur le mouvement des retraites. Donc on continuera à vous tenir au courant de la situation de la grève et de s'ils arrivent un peu à gratter des thunes ou pas.
Et vous êtes toujours sur Radio Canu, c'est le Canu Info du lundi. Et on vous a préparé un petit dossier sur un sujet dont personne ne parle en ce moment. Et voilà le sujet de notre dossier.
La retraite, c'est la santé. On est payé sans travailler. Plus ceci pour le boulot, on fera de mieux en mieux.
Et oui, on commence tout de suite ce dossier sur les retraites avec une petite immersion dans la manifestation lyonnaise qui avait lieu jeudi dernier. Et où il y avait environ 38 000 personnes quand même mobilisées contre cette réforme. On écoute tout de suite.
En fait, les étudiants, ils vont être autant touchés par cette réforme-là que les autres parce que déjà, bah, ils commencent à travailler plus tard. Certes, parfois dans des boulots moins pénibles, mais en fait, avec le chômage des jeunes, il y a de plus en plus de jeunes qui doivent accepter des boulots pénibles. Et du coup, on se retrouve à travailler autant que tout le monde. Enfin, en fait, c'est injuste pour tout le monde et c'est aussi une mobilisation pour la solidarité en fait, entre les travailleurs et les étudiants. Nous, on pense que c'est important d'être solidaire aujourd'hui pour demain, quoi.
Et là, du coup, il y a beaucoup d'étudiants mobilisés aujourd'hui.
Ouais, franchement, pour un début, le semestre, genre dans des facs comme Lyon 2, il n'a même pas encore commencé. C'est impressionnant de voir tous les étudiants qu'il y a. Il y a pas mal de lycéens aussi, de lycéennes. Il y a beaucoup de lycéens qui se sont mobilisés aujourd'hui. C'est vraiment positif. Et sur les facs, ouais, franchement, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un cortège aussi combatif et déterminé. Et je pense que si on continue comme ça, on peut vraiment gagner.
Merci.
Ça va péter, 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 ça va péter,
ici à la manifestation avec la CNTSO et la branche artiste auteur et autrice de la CNTSO. Nous aussi, on veut avoir droit à la retraite. Nous, dans nos rêves les plus fous, on aurait droit à la même retraite que les flics à 57 ans. On trouverait ça bien.
Féministe à l'appel du planning familial. C'est d'autant plus important pour les femmes, pour les minorités de genre, parce que c'est les premières personnes touchées, hein, en tout cas sur les contrats précaires, hachés.
Contrairement à ce que dit le gouvernement, mais ce qu'il disait aussi déjà il y a 3 ans, cette réforme, ou plutôt on pourrait dire cette contre-réforme des retraites, elle ne va pas du tout dans le sens de la revalorisation des conditions de vie des femmes. Ça ne prend pas du tout en compte ni les carrières dites incomplètes, ça ne prend pas en compte le fait qu'elles aient des salaires globalement moins élevés que les hommes, et ça va les faire travailler plus longtemps pour avoir une retraite bien plus faible et dans des conditions de vie qu'on sait à la fin de sa carrière qui sont physiquement et du point de vue de la santé très problématiques. Il y a plein de mesures féministes qui sont possibles. L'une des plus évidentes peut-être, c'est l'égalité salariale. Ça, c'est, on va dire, un peu la base. Et on le sait, les chiffres le montrent. S'il y avait une égalité de salaire entre les hommes et les femmes aujourd'hui, il y aurait plus en fait dans les caisses de retraite. Donc il y a ça. Et après, globalement, je pense qu'une des revendications féministes, c'est que tout le monde travaille moins en termes de temps de travail et en termes de durée dans la vie de travail, pour que tout le monde puisse travailler et que tout le monde travaille dans des bonnes conditions. Il y a aussi ça qui est très important, les questions de pénibilité. On sait que les femmes, elles font des travaux extrêmement pénibles dans des domaines qui ne sont absolument pas valorisés d'un point de vue économique, qui impactent physiquement les femmes. Je pense à tous les métiers du soin, du service, déjà ça permettrait aussi de vivre mieux. Et donc ça, c'est des mesures féministes qui sont importantes, revaloriser ce travail, repenser les conditions de travail des femmes, repenser ce que ça veut, enfin les métiers qu'on appelle dits féminisés. Tout ça c'est des mesures féministes qu'on peut mettre en place. Les analyses, elles existent, les mesures, elles existent, il y a des revendications depuis des décennies qui sont jamais entendues. Donc je dirais que ça, c'est des premières choses. Après, peut-être aussi que ce mouvement des retraites-là, avec les AG féministes, avec les mouvements féministes qui sont impliqués, pourront émerger aussi d'autres revendications en plus de celles.
Monarchie, capital, vite, la République sociale. Monarchie, capital, rendu au capital. Vite, la République sociale.
À vous les camarades, ça fait 100 ans.
Alors pas touche à nos lycées.
Alors pas touche à nos lycées.
On continue la chanson.
Unité solidaire.
Salariés, étudiants, chômeurs, retraités. Nous avons tous et toutes les mêmes intérêts. Lutter pour la dignité.
Allez, faites du bruit.
Dans les instances, dans les entreprises, etc.
L'unité également dans la résistance au fascisme qui nous a permis de mettre en place le CNR et qui nous a fait gagner la sécurité sociale, les retraites. C'est l'unité qui nous a permis de gagner tous ces mouvements. C'est l'unité qui nous permettra de gagner celui-ci. L'unité et la mobilisation massive de toute notre classe, de tous les travailleurs, de toutes les travailleuses. privés d'emploi, précaires, retraités, étudiants, lycéens, salariés du public, salariés du privé, c'est tous et toutes ensemble.
Et tous ensemble, tous ensemble,
grève générale.
Et tous ensemble, tous ensemble,
grève générale.
Et voilà, c'était un petit reportage sur la manif lyonnaise de jeudi dernier. Donc l'unité, c'est super, mais quand même, ça pousse à accepter que la prochaine date de mobilisation ne soit que le 31 janvier, l'unité syndicale. Mais bon, ensuite...
Merci l'unité avec la CFDT notamment, hein, si on est d'accord. Alors, oui, vas-y.
Non, vas-y, justement.
Non, bah, très bien, c'est mieux.
Petite interview de...
Voilà, nous avons interviewé aujourd'hui, en début d'après-midi, une camarade de la CGT Énergie, rue du Guesclin, dans leurs locaux, puisque, on le sait, la CGT Énergie, comme d'autres secteurs salariés, ont décidé quand même de mettre un petit coup de collier par rapport à cette mobilisation. On a bien besoin d'eux, donc on écoute l'interview de cette camarade.
Et on écoute tout de suite l'interview de cette camarade.
Juliette Lamoine, secrétaire générale du syndicat CGT Lyonnais de l'énergie. Donc syndicat CGT qui rayonne sur toutes les entreprises des industries électriques et gazières de Lyon, de Lyon Métropole.
Alors, la CGT Énergie, là, on a vu que vous retrouviez l'appel de la CGT, et plutôt qui émane des raffineries et de la pétrochimie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi vous avez décidé de rejoindre cet appel ?
Le fait de rejoindre cet appel, c'est plutôt une décision qui a été faite au niveau de la fédération, hein, au niveau national. Après, c'est vrai que nous, dans les industries électriques et gazières, on est doublement attaqués, si on peut dire, par ce projet de réforme. Donc, on est très, très fortement impactés par le projet. Et il nous semblait qu'il fallait face à cette attaque-là, une réponse forte. Et c'est pour ça qu'on se s'allie effectivement à d'autres fédérations, à toutes les fédérations qui le voudront bien.
Alors, est-ce que tu peux nous dire en quoi cette réforme, notamment, elle vous impacte, vous, directement, dans le secteur de l'énergie ?
En fait, je disais doublement impacté, parce que, comme tout le monde, on est impacté par les deux ans en plus, les deux ans, donc le décalage de l'âge de départ, et par l'allongement du temps de cotisation. Donc ça, c'est comme tout le monde, ce premier impact, comme tout le monde. Après, le second impact, bah, c'est la volonté de mettre fin à nos régimes spécifiques. Aujourd'hui, on a un régime spécifique qui nous permet d'avoir une réelle reconnaissance, notamment, hein, pas que, mais d'avoir une réelle reconnaissance de la pénibilité. On a des métiers qui sont, enfin certains métiers, alors ça représente à peu près 30% de nos métiers, hein, dans les industries électriques et gazières. Mais ces 30%-là, c'est ceux qui vont réparer les lignes quand il y a des tempêtes de neige. C'est ceux qui sont joignables H24 tous les jours, même les jours fériés, même à Noël, même le jour de l'an, pour aller rétablir l'énergie partout en France. Et donc, cette pénibilité-là, eh ben, on a la chance d'avoir effectivement un régime qui nous permet de la reconnaître et qui permet d'avoir des départs anticipés pour ces métiers-là. Parallèlement à ça, on a aussi un calcul de notre retraite qui est un peu plus intéressant que le régime général, puisqu'il est fait sur nos 6 derniers mois de salaire. Et dans une carrière dans les industries électriques et gazières, les 6 derniers mois de salaire, en général, sont les meilleurs salaires qu'on a sur une carrière. Donc, on part à 75% de nos 6 derniers mois de salaire. Donc, voilà, ces spécificités-là, qui sont liées à notre régime spécial, et donc et qu'on veut défendre, et qu'on aimerait aussi ériger en modèle, finalement, puisqu'on a une caisse de retraite qui fonctionne très bien, qui dégage même des excédents, qui participe aussi à la solidarité nationale, puisqu'on reverse aussi une partie dans le régime général, justement en entraide avec ce régime-là. Et donc, on aimerait ériger plutôt en modèle, plutôt que d'être attaqué et tirer vers tout le monde vers le bas en disant, bah non, sous couvert d'équité, tout niveler vers le bas, quoi.
Bon, et on a parlé des retraites, mais plus généralement, quelles sont les revendications des travailleurs et des travailleuses du secteur de l'énergie et de la CGT Énergie ?
Alors, bah, les revendications des travailleurs et des travailleuses du secteur, évidemment, c'est d'avoir les moyens donnés aux services publics pour travailler dans de bonnes conditions de travail. Plus généralement, la CGT Énergie porte le service public de l'énergie, un vrai service public avec l'énergie qui sortirait du marché, qui redeviendrait, qui est un bien de première nécessité et qui sortirait de la logique marchande. Et pour ça, ce serait organiser donc un véritable service public de l'énergie. Géré publiquement justement et en dehors des logiques du marché. On a une vraie mission de service public et ça se ressent encore plus en ce moment dans la crise énergétique. Aujourd'hui, on a des factures qui flambent alors qu'on a un marché qui devrait pas flamber si on avait justement un véritable service public. Et là aujourd'hui, nous on prône effectivement une renationalisation, une véritable renationalisation et une gestion publique de l'énergie.
Oui, parce que là, on peut aussi parler des profits qui sont issus du secteur de l'énergie. Où est-ce qu'ils vont tous ces profits?
Alors le problème, effectivement, c'est que s'il y a une partie de ces profits qui vont dans des caisses privées, notamment à Engie, etc. Le groupe Engie aujourd'hui est largement privatisé. Donc on a cette réalité marchande aujourd'hui qui ne devrait pas être intégrée dans le secteur de l'énergie, quoi. Donc les profits, ils vont aux plus riches et aux puissants, malheureusement. Après, pour ce qui est des profits d'EDF, effectivement, EDF appartient à 100% maintenant à l'État. Mais pour autant, aujourd'hui, on a aussi de la précarité énergétique. On a 12 millions de personnes qui sont en situation de précarité énergétique. Il faut faire évoluer le secteur vers une réelle politique publique pour justement avoir une vraie politique contre cette précarité énergétique.
Ok. Est-ce que la grève du 19 janvier, elle a été suivie comment, de quelle ampleur dans le secteur de l'énergie? Est-ce que tu sais un peu localement comme nationalement?
Ouais. Alors, il y a eu une forte mobilisation des électriciens et gaziers partout en France. Sur Lyon, on a des taux de grévistes qui sont intéressants, qui tournent, on va dire, entre 40 et 70%. On a même des endroits où on a plus de 75% de grévistes. Alors après, ça dépend des métiers. Alors le secteur est tellement vaste, il y a énormément d'entreprises. Hein. Ça va de RTE à Enedis, GRDF, EDF, Engie, enfin voilà. Donc ça dépend, c'est toujours pareil, les profils un petit peu aussi du salariat, parce que c'est vrai qu'on a, on a des agents qui ont peut-être plus une culture de grève que d'autres, mais en tout cas les taux étaient très très, on a eu une forte mobilisation des agents des industries électriques et gazières le 19, c'était une grande journée de mobilisation.
Là, la prochaine date c'est le 26 janvier. Si j'ai bien compris, votre prochain appel, vous faites grève le 26?
Alors, il n'y a pas d'appel à la grève le 26. En fait, on a un plan, on a monté un plan de lutte qui s'inscrit dans le plan interprofessionnel, donc avec la prochaine date de mobilisation le 31 janvier. Et en attendant le 31 janvier, on essaye de créer des conditions pour organiser la lutte, pour mobiliser ceux qui n'étaient pas encore mobilisés. Et nous, le 26, à Lyon, en tout cas, le 26, le syndicat invite les salariés des IEG de Lyon à venir participer à une matinée d'informations sur les retraites et notamment sur notre spécificité à nous. Et avoir un moment d'échange aussi pour organiser la lutte et notamment, pourquoi pas, prévoir des actions qui seront décidées collectivement. Alors, je ne peux pas vous dire encore, puisque le 26 n'est pas passé, donc je ne sais pas encore ce qui se passera. En tout cas, on ne s'interdit rien. Clairement, on a un message fédéral et on rejoint le message fédéral qui dit que s'il faut qu'il y ait des interventions sur le réseau ciblées, si on décide collectivement d'aller vers des rétablissements sur des situations de précarité ou autres, on le fera. En tout cas, on saura organiser ça et on va se donner les moyens d'organiser ça. Alors, ce sera pas jeudi puisque c'est jeudi qu'on commencera à créer les conditions pour se voir et pour organiser ça, mais en tout cas, on s'interdit rien.
Ouais, d'ailleurs, ça a déjà commencé un peu dans certaines zones françaises, ce type d'action portée par la CGT Énergie.
Tout à fait, ça a été revendiqué par la CGT Énergie, mais avant même la première journée de mobilisation, ce qu'il faut que le gouvernement entende, c'est que les salariés, c'est eux qui créent les richesses au quotidien et c'est eux qui ont la main sur leur outil de travail. Et à tout moment, ils le reprennent.
Ça me paraît bien. Donc on attend le 26 pour avoir des infos sur ce que vous allez faire ici localement. Et puis on se retrouve le 31 dans la rue, dans la grève et dans la manif.
Le 31 en grève dans la rue massivement pour dire non au projet de réforme du gouvernement.
Super, merci beaucoup.
Merci à vous.
Donc, vous venez d'écouter une camarade de la CGT Énergie du département du Rhône. Alors justement, on peut parler un peu de ce fameux message fédéral. Il y a eu des actions déjà des électriciens, énergéticiens, notamment le 19 janvier. On peut dire qu'il y a eu moins 7 4000 mégawatts de production. C'est énorme et tout ça grâce aux grévistes. Et ça, c'est selon Enedis et RTE. RTE, c'est une filiale d'Enedis, c'est réseau de transport de l'électricité. En région parisienne, la CGT Énergie a coupé le courant d'une zone industrielle à Massy en Essonne et ça a bien foutu le bordel. À Montpellier, autre exemple, Enedis a enregistré des coupures de courant dans 4 postes d'électricité de la métropole, dont le quartier Montpellier-Préfecture. Hasard, peut-être pas. Dans le Lot, la perme de la députée Renaissance Huguette Tierna a subi une coupure de courant pendant près de 4 heures. En Haute-Marne, la préfecture, le conseil départemental, le conseil régional et l'inspection académique ont subi des coupures volontaires. Bref, ce n'est probablement que le début, comme on l'a entendu avec la camarade de la CGT Énergie du Rhône. On se rappelle d'ailleurs qu'en 2010, contre une autre réforme des retraites, celle de Sarkozy, ces coupures d'électricité ciblées et ces remises de courant ciblées avaient été très nombreuses et elles ont fait beaucoup de bien ou beaucoup de mal, ça dépend dans quel sens. La diversité des moyens d'action va être particulièrement importante dans ce mouvement si l'on veut faire plier Macron et consorts. Donc on compte aussi évidemment sur les camarades de l'électricité et de l'énergie.
Et donc on a tous et toutes bien en tête la prochaine date du 31 janvier pour la mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Et on passe pour le reste à notre traditionnel agenda.
Alors, deux dates pour l'instant. Jeudi 26 janvier, nous pensions à très nombreux et nombreuses que ce serait la prochaine date de mobilisation, de la prochaine date posée par l'intersyndicale et l'aile droite de l'intersyndicale représentée par la CFDT a réussi à gratter des points, donc ce sera le 31. Ceci étant, vous en avez parlé la semaine dernière, il y avait un appel jeudi dernier, donc le 19 janvier, le soir, à l'annexe de l'ECG, l'espace communal de la Guillotière, où nous sommes réunis en réunion intercatégorielle, interprofessionnelle, pour essayer d'envisager des actions en dehors des cadres et des journées de mobilisation portées par l'intersyndicale, bien entendu pas contre, mais en dehors, et y compris pour constituer des caisses de grève, aller rejoindre des piquets de grève comme celui de General Electric aujourd'hui et autres, et il y en aura évidemment d'autres pendant ce mouvement. Donc nous appelons cette réunion qui a eu lieu le jeudi de la semaine dernière à une nouvelle réunion jeudi. Donc 26 janvier à 18h à l'annexe de l'ECG, espace communal de la Guillotière, 27 rue Salomon-Rénac, pour continuer à discuter, à constituer des cadres d'organisation qui nous permettent de tenter en tout cas d'élever le rapport de force. Et le lendemain, vendredi 27 janvier, on vous en a aussi parlé la semaine dernière, il y avait même une interview des membres du comité de soutien à Vincenzo Vecchi. Il y aura une soirée de soutien à l'Amicale du Futur, 31 rue Sébastien Griff, à la Guillotière, pour discuter un petit peu de ce passage en cour d'appel de Vincenzo Vecchi, ce militant italien que l'Italie demande. En tout cas, l'Italie veut l'extrader. Il habite en France depuis un certain nombre d'années. L'Italie demande son extradition car il a participé au contre-sommet de Gênes en 2001. Il a été condamné à 12 ans de prison ferme sur la base d'une loi fasciste qui date de 1930. Et il y a un comité de soutien breton. On vous invite à réécouter l'émission de la semaine dernière pour avoir un petit peu les détails. Et on va parler de tout ça vendredi 27 janvier à l'Amicale du Futur à partir de 18h. N'hésitez pas à venir et à faire tourner.
Et il est 20h tout pile, c'est la fin de ce Canu Info du lundi 23 janvier. La semaine prochaine, il n'y aura pas de Canu Info du lundi, malheureusement, mais on vous retrouve dès mardi 31 janvier dans la rue en manif. Et le lundi suivant, le 6 février.